Bonjour, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlaico.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Nous entrons dans la saison du bac, des examens à l'université et des diplômes. Toutes les épreuves ne se tiendront pas en présentiel et l'on craint vraiment une recrudescence massive de la triche, François.
Oui, si on craint ça, c'est parce qu'on se base sur ce qu'on a observé pendant les partiels, hein, en cours d'année, qui ont été faits à distance dans leur quasi-totalité. On donnait les sujets et puis chaque élève travaillait chez lui et bon nombre d'examens vont se passer encore comme ça. On a constaté dans bon nombre d'établissements une progression des cas de fraude de 50 à 70%. Pour les fraudes constatées, évidemment. Par définition, ça ne concerne que celles-là. Et on a constaté surtout une incroyable variété des techniques de fraude. Il y a évidemment le fait que les élèves, à partir du moment où ils ont le sujet, se mettent en lien avec d'autres candidats, via un groupe WhatsApp, par exemple, ou une application Zoom qui leur permet de dialoguer et de collaborer pour résoudre les problèmes qui leur sont soumis. Évidemment, le fait de vérifier sur Internet ou de trouver la réponse sur Internet, il n'y a rien de plus simple. Même quand on interroge à distance les candidats à l'oral, puisque un certain nombre d'oraux se sont déroulés en distanciel, eh bien, on a constaté dans certains cas que les candidats avaient trouvé différentes astuces. Certains ont collé des fiches sur le mur derrière l'ordinateur de façon à pouvoir donner le sentiment qu'ils regardaient l'examinateur, mais en réalité, ils étaient en train de lire littéralement les antisèches. D'autres, alors là, c'est plus rigolo, ont carrément collé des post-it sur le dos du chien qui était couché à côté d'eux. Il y a des cas aussi pendables de substitution de candidats, certains mettant une perruque de façon à se faire passer pour leur petite amie, etc. Alors bon, bien sûr, ça ne vaut pas pour toutes les épreuves, parce qu'il y a des examens où on ne vous demande pas des connaissances précises, mais une dissertation par exemple, mais pour toutes les épreuves de contrôle qui portaient sur des connaissances acquises, c'est-à-dire ce qu'on a appris par cœur, eh bien c'était spectaculaire. Même dans la célèbre académie de West Point, c'est une académie américaine qui forme les militaires depuis la naissance des États-Unis, hein, où il y a un code d'honneur très rigoureux pour ce qu'on appelle les cadets, c'est-à-dire les jeunes gens qui se destinent à la carrière militaire. Il y a eu un scandale monumental parce que au moment d'un test de mathématiques, on a trouvé plusieurs dizaines de copies qui étaient très proches, voire quasiment identiques, et on a réalisé, après interrogation des élèves, que plusieurs dizaines d'entre eux étaient en fait en Zoom entre eux ou communiqués par messagerie. Il n'y avait pas eu de scandale de cette ampleur-là depuis 1976 et West Point a dû justement changer ses règles de fonctionnement parce que jusqu'ici, elle ne soumettait pas à exclusion ceux qui avaient violé le code d'honneur, justement dans l'espoir qu'ils contribuent à se dénoncer. Eh bien, cette disposition a été révoquée de façon à permettre l'exclusion de ceux qui contrevenaient aux règles les plus élémentaires. Et ce qui est frappant, plus encore que les techniques individuelles, c'est l'essor d'un véritable secteur marchand de la triche, avec d'innombrables sites qui proposent aux candidats de réaliser leurs devoirs contre rémunération, des devoirs qui sont garantis originaux, c'est-à-dire desquels on a purgé toute forme de plagiat, de façon à ce que l'élève ne puisse pas se faire attraper. Et ça peut coûter une dizaine, une centaine de dollars ou d'euros, suivant l'endroit où ça se déroule. Aussi spectaculaire, des places de marché qui permettent de mettre en lien des élèves qui ont déjà réalisé un examen ou un devoir et qui revendent leur brouillon ou leur fiche aux futurs candidats de façon à ce qu'eux-mêmes puissent s'en servir pour répondre à l'examen. Là encore, c'est l'offre et la demande qui fait les prix. Dans certains cas, on a constaté d'ailleurs des sites, je dirais, peu recommandables, encore moins recommandables que les autres, qu'ils demandent l'adresse, toutes les coordonnées de celui qui justement achète de telles antisèches. Et après l'avoir acheté, le candidat se voit demander une nouvelle somme d'argent. S'il ne la verse pas, eh bien le site en question menace de les dénoncer à l'école dans laquelle ils sont inscrits et qui évidemment pourrait les expulser. Des sites de vente aux enchères, de cours et de fiches, c'est incroyable. Mais c'est une des conséquences tout à fait étonnantes de l'épidémie et de l'essor du distanciel.
Mais ce que vous décrivez, François, est tout à fait incroyable. Mais ça veut dire qu'à l'occasion de cette pandémie, il y a une sorte de désinhibition de la triche. triche. Hein. Tout le monde se met à tricher dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Oui, les enseignants disent ça, les responsables d'école disent on n'a jamais vu ça. Alors, c'est pas seulement la facilité d'ailleurs de la triche qui fait qu'elle s'est développée. De fait, hein, c'était plus facile à distance. Mais il y a aussi, disons, la relation à l'école qui s'est détériorée, la relation au professeur, la relation à l'autorité de façon générale, et qui s'est accompagnée d'une forme de découragement des étudiants à cause de ces cours en distanciel. Relâchement général, donc, y compris des parents, qui normalement surveillent un peu, voire disputent leurs enfants s'ils voient que leur comportement n'est pas conforme, comme si finalement le contrat implicite avait été rompu et que les élèves s'y adaptaient en disant bah écoutez, puisque c'est comme ça, tous les moyens sont bons. Affaiblissement de la relation au professeur et à l'enseignement. Et certains vont même jusqu'à pronostiquer que cette génération aura un comportement comme ça bien au-delà de l'école et que ça pourrait se traduire justement par un respect moindre des règles collectives au sein du milieu du travail parce qu'on aura pris l'habitude de la triche. L'autre explication, alors qui est pas forcément plus rassurante, mais qui est, je dirais, qui touche à non pas au développement de la malhonnêteté, mais au changement des modes d'enseignement, c'est que finalement, l'enseignement est quand même en partie sorti de l'école. C'est-à-dire que les élèves ont pris l'habitude de se documenter sur Internet, voire de s'inscrire justement dans des sites d'enseignement à distance, pas forcément des sites qui préparent aux examens, mais des sites qui dispensent des formations, et que, pour le coup, ils ont le sentiment que comme ils ont payé à côté, eh bien, après tout, le respect des règles de comportement de base ne leur est plus dû.
Mais alors, est-ce que les écoles ont des moyens pour contrôler, pour limiter ces fraudes qui ont l'air, effectivement, de se répandre de manière extrêmement large aujourd'hui?
Tout dépend des moyens qu'elles ont. Là encore, c'est toujours l'histoire des gendarmes et des voleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les voleurs, si je puis dire, ont développé des techniques sophistiquées, évidemment, les gendarmes aussi. Là encore, il y a des entreprises qui sont montées ou qui ont connu un développement extraordinaire pendant cette année, qui vendent des services de détection à distance de la fraude. Et c'est-à-dire que le candidat est obligé, pour passer un examen, de télécharger sur son ordinateur et sur son téléphone une application qui va par exemple vérifier qu'il n'a pas d'écouteur sur la tête, qui va lui demander de faire une prise de vue intégrale, une sorte de film de la pièce dans laquelle il se trouve en 3D, hein, le logiciel téléchargé permet cela, qui est expédié au centre de contrôle de façon à ce qu'on mesure bien qu'il n'y a personne, pas de chien avec des antisèches collés sur le dos, et que il n'y a pas de possibilité que quelqu'un soit caché dans un endroit ou un autre de la pièce. Et pour faire ça, les candidats doivent se mettre entre deux caméras, celle de leur ordinateur et celle de leur téléphone qu'ils ont l'obligation de placer derrière eux en la bloquant entre deux piles de livres, de façon à ce que la prise de vue aussi puisse se faire par derrière. Tout est filmé pendant la réalisation de l'épreuve, hein, et l'examinateur peut voir ça en direct, ou bien repasser après, de façon à contrôler qu'il n'y a pas eu d'infraction, évidemment avec détection des bruits éventuels, des conversations, etc. Plus sophistiqué encore, le contrôle du visage avec l'intelligence artificielle. Certaines sociétés fournissent cela. Évidemment, ça fait appel justement à la science neurocognitive, quoi, et à l'observation des micro-mouvements du visage, éventuellement d'ailleurs des changements de couleur de peau, un éventuel rosissement qui peut témoigner une émotion inhabituelle. Et donc le fait que l'élève franchit les bornes, ça ne marche pas toujours. Notamment, il y a certaines couleurs de peau qui, semble-t-il, sont plus difficiles à détecter. Voilà. Tous ces systèmes, évidemment, détectent quand quelqu'un rentre dans la pièce. Et ils détectent aussi un éventuel second écran, hein, en repérant les ondes émises par les écrans. Il y a aussi associé à cela des logiciels qui sont utilisés en aval pour détecter les similitudes entre les copies, hein, de façon à repérer justement les éventuels plagiats. Enfin, c'est digne de James Bond. Et certaines sociétés qui ont inventé des dispositifs comme celui-là, il y a une société qui s'appelle Proctor Exam, par exemple, ont connu des croissances de 900% cette année. C'est évidemment réservé aux écoles qui ont les moyens. HEC, par exemple, s'est équipé d'un système de contrôle qui est assez sophistiqué dans certaines universités. C'est pas évident. Il y a des universités qui ont été assez malignes. En Caroline du Nord, un professeur de statistique a conçu un logiciel, un automate, pour générer des questions individuelles pour chaque candidat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de triche. Bon, c'est évidemment beaucoup plus de travail pour le prof, parce que quand il corrige les copies, il faut faire pas mal de corriger. D'autres, de façon plus prosaïque, probablement pas moins efficaces, ont changé tout simplement le type d'examen. Et alors que naguère, il contrôlait justement des connaissances connaissances précises avec, je ne sais pas, des dates pour l'histoire, des formules mathématiques, eh bien, ils soumettent un problème, une analyse, une question d'analyse aux étudiants de façon à mesurer leur réactivité face à un problème qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il est tout à fait possible que ces comportements et les difficultés qu'ont rencontrées les universités cette année suscitent un changement dans la nature des examens et justement provoquent une augmentation des épreuves où il n'y a pas de vérification de connaissances apprises par cœur, mais que justement on sollicite davantage l'inventivité, la créativité ou la réactivité du candidat.
Alors ça pose évidemment la question de la valeur des diplômes qui seront délivrés cette année, des cours à distance qui ont été plus ou moins bien assurés, parfois pas assurés du tout, notamment dans certaines facs ça a été très compliqué, des examens plus ou moins bien contrôlés, il y aura quand même forcément à la fin une baisse du niveau, non ?
C'est tout à fait possible, au moins une dispersion du niveau. On observe déjà ça aussi dans le secondaire, avant les examens. On savait évidemment que le distanciel pénalisait les élèves en difficulté, parce que les parents ne sont pas là pour pouvoir les aider. On a réalisé d'ailleurs qu'en réalité ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire ça pénalise les élèves défavorisés, mais ça favorise les élèves favorisés, parce que justement, les parents sont là derrière. Et ils jouent un peu le rôle d'un précepteur, quoi, comme ça se faisait au 19e siècle dans les classes les plus aisées. Donc finalement, avec le distanciel, le milieu social joue encore plus qu'auparavant, et c'est tout à fait possible que ça joue aussi pour les diplômes. Bon, alors, on manque de recul, évidemment. Peut-être dans 5 ou 10 ans, on fera plus attention véritablement à la date à laquelle, disons, au millésime du diplôme, et un diplôme d'un BTS ou d'école d'ingénieur, le cru sera confondu avec les années qui l'ont précédé, les années qui l'ont suivi. Certains considèrent que, bon, évidemment, il y a une perte de connaissances liée justement à la façon dont l'enseignement s'est déroulé, mais qu'il y a aussi d'autres capacités en plus. C'est ce que disait Frédéric Vidal, qui est ministre délégué à l'enseignement supérieur, et qui dit finalement, au moins pour les élèves qui justement ont réussi à se débrouiller pendant cette année, ils ont eu à faire preuve d'autonomie bien davantage que leurs prédécesseurs. Et après tout, ce sont des compétences extrascolaire, mais qui, dans un environnement professionnel, compte aussi. Parce que vous êtes justement, dans la vie professionnelle, soumis à des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Et de ce point de vue, dit-elle, les études préparent peut-être un petit peu mieux à la vie professionnelle qu'auparavant. Bon, c'est peut-être une façon de faire contre mauvaise fortune bon cœur. On verra ça avec le recul du temps. C'est vrai que de toute façon, plus on avance dans la carrière, moins le diplôme compte, puisque c'est l'expérience professionnelle qui finit par devenir la plus importante et même quelquefois par écraser complètement le diplôme. Et le problème des diplômés de 2021, c'était aussi celui des diplômés de 2020, ça sera plutôt que de faire reconnaître la valeur de leur diplôme, de trouver des stages ou des premiers boulots dans un environnement économique qui est quand même beaucoup moins facile que celui de leurs prédécesseurs. Là encore, on peut espérer qu'il y aura une petite différence entre 2020 et 2021 parce que la reprise semble bonne et au moins dans certains secteurs, on va avoir besoin de jeunes pour faire tourner les entreprises.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.